Africa, le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous pouvez commenter l'actualité, réagir au sujet qui font la une. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes de retour ce lundi avec ce sujet au Mali. Interrogation autour d'un échange de prisonniers. 18 djihadistes maliens auraient été libérés en février dernier en échange de deux otages. Sans démentir, le gouvernement malien n'a pas pour autant confirmé l'information. Alors qu'en pensez-vous? Êtes-vous favorable à ces échanges de prisonniers? Le gouvernement doit-il négocier avec les terroristes? On parle du Mali, mais on pourrait aussi parler, pourquoi pas, du Cameroun où sévit Boko Haram et les leaders séparatistes. On pourrait également parler de la France après cette opération de sauvetage au Burkina Faso des otages français. Une France qui est accusée par certaines familles des otages de ne plus vouloir négocier. C'est notamment le cas du fils de Sophie Petronin, retenu au Mali depuis 2016, qui accuse l'État français d'avoir coupé toute négociation pour libérer sa mère. Alors, que pensez-vous de ces négociations avec les terroristes? Pour participer, nous faire part de vos commentaires, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Nous attendons vos appels. Avant cela, voici la séquence incontournable du journal des auditeurs, le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bon, j'ai été trop lent et trop long. Alors, je veux dire simplement, auditeurs et auditrices, que l'affaire de Madame Castel Semenya, athlète sud-africaine dite hyper androgène, dans cette affaire, c'est la notion de l'homme ou de la femme normale qui est en jeu et qu'elle a justifié à travers l'histoire des crimes dont l'Afrique n'est pas exempte non plus, hein. J'ai parlé des albinos qu'on sacrifie parce qu'ils ne sont pas normaux. Crime rituel. Alors donc, réveillez-vous, réveillons-nous. C'est du racisme pur et dur. L'homme normal n'existe pas. Chacun de nous a des défauts et des avantages. Donc, cette décision du tribunal arbitral du sport est inadmissible. Battons-nous contre, levons-nous pour nous battre contre et ne laissons pas les jeunes filles concernées seules dans leur combat. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
Bonjour chers amis auditeurs d'Africa Radio. Brice à l'appareil. Bonjour Madame Hartmann, excusez-moi. Vraiment, j'ai eu le plaisir, mais vraiment le grand plaisir d'écouter, d'avoir la chance de tomber sur l'émission de Monsieur Laloupeau ce samedi. Aux environs de midi, bon, il est 13h, ça vient de terminer. L'invité était monsieur le Cheikh Tidiane Gadio, excusez-moi. Et donc vraiment, sur sa posture internationale, bon, parce qu'il a beaucoup parlé du Sénégal, bon, que je maîtrise moins, mais sur sa posture internationale et l'avenir de l'Afrique internationale, sincèrement, ce monsieur a dit tout ce qu'il avait à dire et il a dit tout ce qu'il avait à entendre. Et je recommande à tous les auditeurs d'Africa numéro 1 de mettre en podcast cette émission-là. Et il a dit, ce que j'avais déjà dit une fois, bon, j'ai été un peu rebooté pour ça, qu'il y avait bien un avion qui avait pris le chemin de la Libye pour aller résoudre le problème libyen quand Kadhafi était encore là, mais qui avait été menacé d'être abattu. Mais bon, ça a été à moitié dit par M. Kadhafi. Mais bon, bref, en tout cas, il a tout dit, ce monsieur. Et vraiment, j'espère que Dieu l'entende, que les choses se résolvent comme il le souhaite. Et voilà, parce que tout a été dit. Merci, c'est juste pour dire ça. Salut.
Oui, bonjour Afrique numéro 1. Je voudrais parler un peu de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le nouveau président nommé, M. Tshisekedi. Et nous voulons savoir, je vais savoir sa position. Sur le ce qui se passe maintenant, sur son adhésion, son union entre le FCC et puis UDPS. Il y a des troubles terribles au sein de son parti UDPS. Il y a eu des tabassements, ils ont tabassé des gens, ils ont même cassé le bras de... Ils ont blessé un certain fils, Moukoko, quelque chose comme ça. Et il y a eu même un mort ou des morts, il y a eu des blessés. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette union-là? Et en plus, à l'est du Congo, de la République démocratique du Congo, il y a encore des menaces, je crois, à Goma. Et la police qui tabasse, qui massacre la population. Alors, quand il parle de l'état de droit, qu'est-ce qui se passe-t-il dans cet état de droit? Qu'est-ce qu'il fait au juste? Qu'est-ce qu'il fait sur ce poste-là, Tshisekedi? Nous avons voulu un fils de pays.
Ce dimanche 12 mai 2019, un prêtre a été tué en pleine messe par les terroristes au Burkina Faso. Et de même qu'un prêtre français avait été tué en pleine messe, je crois en 2016, le père Jacques Hamel, près de Rouen, le Vatican a vite diligenté une enquête pour sa béatification. De même pour ce prêtre, pour les mêmes causes, j'aimerais dire pour les mêmes effets aussi, que ce prêtre africain, ce prêtre burkinabé, soit vite béatifié aussi, que son procès en béatification s'ouvre très vite, dans moins d'un an. C'est ce que je souhaite. J'espère que les autorités du Vatican m'entendent et ils entendent, et elles écoutent bien la radio africaine. Ils ont les états-majors qui écoutent plusieurs radios et les messages de plusieurs peuples, de plusieurs personnes du monde. J'espère que ces autorités vont écouter ce message sur Africa numéro 1. Allez, salut.
Oui, bonjour chers amis de la radio Africa. Bonjour Stéphanie. Bon, aujourd'hui c'est un coup de gueule. Ben oui, j'interviens à propos des hommes politiques en Afrique, mais particulièrement en Côte d'Ivoire. Ces hommes politiques, ils sont députés, ils sont ministres, ils sont présidents du conseil général, ils sont maires. Comment ils peuvent cumuler tous ces postes et travailler en même temps? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Pendant qu'en Europe, on parle de démocratie, de suppression, de cumul de mandats, et ils ont tous les mandats. Et avec ça, ils sont partout à la fois. Ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional, président du conseil du département, maire, député à la fois. Alors je me demande, soit c'est des super hommes, ou soit il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, chers amis, laissez au moins le pouvoir aux autres pour pouvoir travailler un peu, parce qu'à force de vouloir s'occuper tout seul, on ne fait rien. Donc si c'est l'argent qui les intéresse, c'est bien, mais pensez aussi au moins au peuple. Merci.
Bonjour, auditeurs d'Africa Radio. Je voulais juste lancer une pique à nos opposants togolais. Nous les avions prévenus qu'il ne fallait pas accepter Alpha Condé comme médiateur. Bon, ils ont voulu jouer le jeu et voilà les résultats. Qu'ils aient accepté Alpha Condé ou pas, le résultat est le même. Donc, il valait mieux recuser Alpha Condé, arriver à ce résultat, que d'avoir joué le jeu d'Alpha Condé. Alpha Condé lui-même veut faire la même chose qu'un fort et on leur a dit, ils le savaient. Donc, je ne sais pas pourquoi. Dans l'opposition, il faut faire preuve d'un peu plus de fermeté et d'intelligence. On ne peut pas vous imposer un médiateur que vous ne voulez pas. À la limite, il vaut mieux rester sans médiateur. Et puis voilà, vous avez accepté un médiateur et maintenant les choses sont entérinées. Et puis voilà, il ne reste plus que vos yeux pour pleurer. Et si Fort veut partir, il partira. S'il veut rester, il va rester. Et voilà. Vraiment, la politique, c'est un art. Soit on est doué ou on n'est pas doué. Et vous n'allez pas accepter. Bon, mais anyway, c'est votre pays. Nous, on souffre la même chose en Guinée. Bon, voilà. Tant mieux, tant pis pour les pays avec des opposants. Voilà, qui ne sont pas assez forts. Merci, au revoir.
Oui, ami Richdea, bonjour. Voilà, j'appelle un peu pour... en fait, ce message s'adresse particulièrement à la famille de ce pauvre garçon qui a été tué au Bénin, Fiacre, je crois, Brésil, qui faisait donc partie des personnes qui ont été attaquées par un groupe, bon, prétendument, je ne sais même pas comment les désigner. Ce que je note, c'est que ces gens n'ont aucun respect de la vie humaine, encore moins d'un Africain, parce que en fait, ils se sont précipités de tuer ces garçons, parce que pour eux, ils n'avaient aucune valeur, sauf peut-être pour sa famille, parce que le pauvre garçon laisse 6 enfants, et les personnes qui l'ont tué, de toute façon, n'avaient aucune considération pour la personne, le nègre qu'il était, parce que ça ne rapportait absolument rien, donc ils ont préféré s'en débarrasser plutôt que de s'encombrer, alors qu'ils auraient pu le laisser tout simplement en vie. Et je ne vois pour aucune raison l'assassinat de ce pauvre garçon. Franchement, je suis vraiment indigné. Et bonne journée à tous, malgré tout.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, faut-il négocier avec les terroristes, hein, notamment pour libérer des otages? Vous pouvez nous faire part de vos commentaires via WhatsApp. Je vous donne vite fait le numéro, c'est le 33 7 66 19 77 69. Un préfet, un journaliste malien enlevé dans le centre du Mali, hein, et libéré en février, l'ont été en échange de 18 djihadistes, hein, dont un condamné en août 2017 à 10 ans de prison, a-t-on appris la semaine dernière. Le gouvernement malien n'a pas infirmé l'information. On connaît l'adage qui ne dit mot consent. Alors, qu'en pensez-vous? Avant de vous prendre en direct, hein, chers auditeurs, je vous propose écoutez ce qu'en pense Oumar Mareko. Il est président du SADI, c'est la Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, membre de l'opposition au Mali. On écoute.
Ce n'est pas une mauvaise chose que de faire libérer des otages, mais je dis simplement que les otages occidentaux et américains ont des chances que les otages maliens n'en parlent. On a vu la fin de la saga entre les tchadistes et l'État malien à propos du juge Soumaoulo Kone qui a fini par décéder. Et après, ceux qui étaient avec lui ont été libérés. Je pense qu'il est temps que les gens comprennent et que les populations comprennent que c'est un problème de rébellion, de djihadisme, de terrorisme, etc., obéissent à deux choses essentiellement. Première chose, elles obéissent à la politique extérieure des pays de l'OTAN à démanteler les États-nations. D'une part, la politique des gouvernements africains qui ont abandonné complètement les populations à leur sort. Donc la stratégie à qui mieux s'impose aujourd'hui. Mais on constate qu'il y a une espèce de déveil de conscience dans la plupart des pays africains contre les dirigeants, contre la gouvernance, etc. Cela doit être attendu jusqu'à ce qu'on ait la compréhension claire qu'en réalité, la construction d'une bourgeoisie à service dans nos pays liés aux puissances étrangères qui ont liquidé, déficulé complètement l'économie africaine est à l'origine de ces situations. Donc, personnellement, les pays africains, la seule chose qu'ils peuvent faire, les dirigeants actuels, qui sont fondamentalement des dirigeants antidémocratiques, on le sait, pour la plupart, la majorité d'entre eux, n'ont d'autre marge de manœuvre que d'accepter ces échanges-là. Ça ne sert à rien de vouloir maintenir des gens par-ci, par-là, pour dire qu'on se bat contre le terrorisme, sans vraiment s'attaquer les raisons qui ont fait naître le terrorisme. Et un des pas pour faire comprendre que les dirigeants ont compris qu'il faut faire face à la situation de façon ouverte, c'est évidemment de prendre le taureau par le cornet et de s'afficher clairement.
Est-ce que, on a bien compris que pour vous il s'agissait davantage, que le terroriste combattait moins avec les armes, les questions militaires, qu'avec la reconstruction de l'État? Si j'ai bien compris, est-ce que le gouvernement malien a les mains libres sur ces questions? Est-ce que, par exemple, puisque si vous préconisez la négociation, est-ce que le gouvernement malien pourra négocier?
En réalité, je suis de l'opposition, mais je peux vous dire sans transiger que le gouvernement malien n'a pas les mains libres. Le gouvernement n'a pas les mains libres parce que justement, les terroristes sont désignés, les guerriers sont désignés par la communauté internationale, notamment par la France. Et c'est cette même France-là qui interdit au gouvernement de négocier et de débattre, de discuter avec ceux qu'ils ont appelés les terroristes et qui posent effectivement des actes terroristes. Le gouvernement malien n'a pas les mêmes liens, mais cela ne saurait être une excuse pour le gouvernement malien. Parce que quand on, démocratiquement, on se présente à des élections présidentielles, qu'on veut diriger un pays, on le fait en toute connaissance de cause. Les plus riches, les dirigeants africains comme quoi nous n'avons pas les mêmes liens, moi, ça ne m'affecte pas du tout, mais ça ne me permet pas non plus de déloigner la communauté internationale. C'est dans son agenda. L'agenda est très clair, elle est propre. Il s'agit du démantèlement des États-nations et de la même mise totale sur les ressources de nos différents pays, réduire leurs crises internes et en même temps assurer le développement de leur capital. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Et très souvent même, leurs populations ne sont même pas au courant, ne connaît pas l'unicité de ce choix-là, parce que c'est édulcoré par un certain nombre de verbiages, de mensonges, de concepts souhaité passer par là. Alors donc, les dirigeants africains ont une part de responsabilité, ont leur responsabilité à avoir accepté de signer la Banque mondiale et s'être construit eux-mêmes, parce qu'ils se sont construits eux-mêmes dans ce démantèlement de notre économie. Partout, vous avez des États dirigés par les affaires, dans l'Assemblée nationale, vous n'avez que les affaires, dans les ministères, le gouvernement, ils sont dans les affaires, l'entourage du président, ils sont dans les affaires, le président lui-même n'est pas étranger à ces affaires-là. C'est une économie spéculative qu'ils ont mise sur place et qui déstructure complètement l'économie réelle. Alors donc, voilà leur part de responsabilité. On a le sentiment carrément que c'est une sainte famille qui s'impose aux différents pays. Mais nos peuples font beaucoup plus le frais que les peuples de puissances étrangères dont l'économie est beaucoup plus forte que la nôtre.
Omar Marico, je vous remercie.
Merci beaucoup, Stéphane.
C'était Omar Marico, hein, président du SADI, le parti en solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance au Mali, membre de l'opposition. Vous l'avez entendu, hein, pour Omar Marico, hein, la libération des deux otages est une bonne chose, mais on peut aller plus loin. Il faut un dialogue, hein, ouvert, franc et national avec ces djihadistes pour mettre fin à cette guerre, estime Omar Marico. Qu'en pensez-vous? 33 1 55 07 58 00. Par ordre d'arrivée, Vekam Martial. Jules et Touré, on commence avec Vekam du côté de Lubumbashi. Bonjour Vekam.
Bonjour Madame Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs de l'Africa numéro 1.
Bonjour Vekam, oh, on a changé de radio, c'est Africa Radio maintenant, on a changé de nom plutôt, c'est la même radio mais on a juste changé de nom. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent finalement la solution sécuritaire, notamment dans le Sahel, hein, ne règle pas tout, la solution militaire, il faut négocier avec ces gens qui sont des Maliens finalement pour parler du Mali?
Je pense que cette démarche n'est pas du tout à saluer parce que les rebelles, les djihadistes ne pouvaient pas. Bon, ce sont nos frères. Vous comprenez qu'ils sont appelés à limoger leurs frères. Ils sont en train de faire n'importe quoi. La démarche de négocier n'est pas du tout bonne parce que l'État doit faire tout, justifier sa compétence d'éradiquer tout ce qu'il y a comme exactions partout dans les pays africains et au Mali particulièrement. Je ne pense pas que l'État doit se faire baisser sa force en négociant pour que ceux qui sont pris en otage soient libérés par les forces civiques dans ce sens-là. Il fallait que l'État puisse faire tout pour justifier que c'est l'État, il a le pouvoir. Mais négocier pour dire que l'on puisse libérer les djihadistes, bon, on les a libérés. Pour finir, ils ne seront même pas intégrés dans l'armée, ils vont rentrer encore en brousse, revenir avec pour attaquer encore le pays citoyen. Alors, c'est la démarche de ma part n'est pas saluée dans ce sens-là, mais il faut que l'État puisse faire tout pour que l'on puisse lutter contre ces impunités, contre ces crimes qui se vivent dans l'Afrique. Rappelez-vous, Madame Stéphanie, de notre Yahya chanteur, Afabondi qui a dit les hypocrites. Ceux qui tuent l'Afrique, ce sont toujours les Africains. Vous allez apprendre qu'on n'a pas des Européens, on n'a pas des Occidentaux qui viennent commettre des crimes dans ces pays. Si peut-être ces Européens soutiennent les Africains, mais en franche vérité, ceux qui commettent des actes de violence, de crimes sur le continent, ce sont toujours les Africains. Et ce que moi je peux demander, si parmi les djihadistes, parmi les terroristes, là, il y en a qui nous écoutent, qui écoutent des radios comme on est en train de parler ici, que l'on lutte pour le développement et l'épanouissement de notre Afrique. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire du mal, pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire créer des troubles dans tel ou tel autre coin du pays, alors que ça ne profite à rien. Mais peut-être ça peut profiter aux étrangers, ça peut profiter aux inconnus qui viennent que nuire la culture africaine. En fait, la démarche de négocier, à mon humble avis, n'est pas saluée, mais que nos États africains puissent se mettre en accord pour lutter contre les terroristes qui font du désordre dans tous les coins de notre continent.
Merci.
Et en particulier ce qui se passe au mariage, en fait.
Merci beaucoup, Vekam, de nous avoir donné votre avis sur ce sujet. On a bien compris, hein, que pour vous, hein, finalement, négocier avec les terroristes, si un État négocie avec les terroristes, c'est un aveu de faiblesse, hein. Vous préférez la méthode forte. Merci beaucoup, Vekam aussi qui a l'expérience peut-être aussi des groupes armés en République démocratique du Congo. On l'a vu aussi en Centrafrique. Alors est-ce qu'il faut faire la différence entre des groupes armés, des groupes terroristes, des groupes djihadistes avec lesquels on négocie? On négocie par exemple avec les groupes armés en Centrafrique, hein, qui ont par ailleurs été signataires d'un accord de paix. 33 1 55 07 58 00 pour nous donner votre avis. Avant d'écouter Camara, on reçoit Martial. Martial, bonjour.
Bonjour, Madame Stéphanie.
Bonjour, Martial. Alors, que pensez-vous, Vekam? Il dit non. Vekam dit non. Négocier, c'est un aveu de faiblesse. En même temps, on n'a jamais vu une solution militaire aboutir pour l'instant dans cette lutte contre le terrorisme.
Oui, mais Madame Stéphanie, ce que je vais vous dire, c'est que on est dans un cas de figure où vous êtes en train de marcher dans une rue, paisiblement. Arrive un petit voyou qui vous arrache votre téléphone portable, je sais pas trop quoi. Dites-moi au nom de quoi vous allez l'insérer au sein de la police française. Au nom de quel mérite? Donc, je dis, à un certain moment, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit négocier avec des gens qui sèment la terreur. Qui sème la terreur est un terroriste, dont on devait répondre à leur terreur par la terreur. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que la peine de mort était celle qu'il fallait. Certes, ceux qui viennent commettre ces actes, ils viennent pour mourir, mais entre-temps, il y a des services secrets, il y a tout ce qu'on veut, il y a tout un dispositif qui peut mener des enquêtes pour savoir qui fait quoi et pouvoir le
répéter. Alors par exemple, venons à cette histoire, sur ce cas précis du Mali, hein, où il y avait un préfet et un journaliste qui avaient été enlevés dans le centre. Finalement, pour obtenir leur libération, apparemment le gouvernement malien a permis la libération en échange de 18 djihadistes. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour sauver ces otages? Il aurait fallu mener une intervention militaire?
Ce que je vais vous dire à ce sujet, je crois que ceux qui commettent les actes terroristes ont toujours brillé de par leur absurdité, c'est-à-dire qu'ils viennent un peu de nulle part, commettent des actes et redisparaissent. Donc, cet échange de prisonniers, je dis ça comme ça, ben on fait venir une personne. Ben voilà, vous voulez des échanges, mais l'interlocuteur devrait d'abord être interpellé. L'interlocuteur qu'on a en face de soi devrait être interpellé, puisqu'il est au courant de beaucoup de choses. Donc, il est grand temps pour que, parce que quand on négocie quand même avec quelqu'un, on ne négocie pas avec le vide. Donc, celui qui se présente devrait donner les raisons pour lesquelles il se présente, et en tant que qui, il se présente. Comme ça, ça permet de mettre déjà la main sur lui et d'attraper tout le reste. Mais si vous négociez avec cette personne...
Mais après, il y a des intermédiaires. C'est intéressant ce que vous dites, Martial, parce qu'il y a quelques semaines, il y a un intermédiaire nigérien qui s'est fait enlever, d'ailleurs. C'était quelqu'un qui, normalement, négociait, hein, entre les États et les terroristes. Preuve, d'ailleurs, que les canaux de communication sont toujours ouverts. Ce dernier a été apparemment enlevé également par les djihadistes. Mais ça vous surprend qu'il y ait des canaux de discussion comme ça entre des États et des groupes armés?
Mais madame, c'est curieux qu'il y ait des canaux de discussion. Mais tant quelqu'un se présente, ça veut dire qu'il sait qui fait quoi. Donc, mais c'est le moment pour l'État, parce que je crois que l'État a accès à tout son territoire, devrait savoir tout ce qui se passe sur son territoire, donc personne ne peut se dissimuler dans un territoire sans que l'État ne soit au courant. L'État est doté de cette capacité-là. Donc, l'interlocuteur qui se présente, l'intermédiaire, est forcément au départ ou à la fin d'un réseau dont devrait répondre de sa capacité à négocier. Ça, je vous dis, vous voyez, à la fin, vous imaginez, nous sommes des honnêtes personnes, nous travaillons, nous allons nous débrouiller, et là, on se trouve devant des gens qui sont récompensés. Pourquoi? Ils deviennent ministres parce qu'ils sont terroristes.
On comprend bien, en effet, Martial.
Dans ce cas, nous tous, nous allons le devenir, dans ce cas-là. Et vous voyez, un opposant, brise de par ses idées, il est dans l'opposition, mais celui qui sème la terreur, Il n'y a pas de possibilité de négociation avec lui.
Pour vous,
on doit répondre par la terreur.
C'est très clair. Merci Martial, hein, qui qualifie finalement ces terroristes aussi de bandits. Il ne faut pas négocier avec eux. Ce serait une prime finalement à la lutte armée. On va accélérer un petit peu, messieurs, madame, s'il vous plaît. On va écouter Camara. Camara, bonjour.
Ah, bonjour, madame Stéphane Adman.
Bonjour, Camara. Merci de votre patience. On a eu du mal à vous rejoindre après. Vous dites, hein, au contraire, on est obligé de négocier avec eux. Pourquoi ?
Mais, les gens ils sont en train de dire comme si nous avons le choix. On n'a pas le choix. Parce que si le mot terroriste, ça vient de la. Ça vient comme ils disent, semer la terreur. Quelqu'un qui parvient à semer la terreur et que tu n'as pas pu interrompre. Donc, du coup, c'est-à-dire, si c'est lui qui demande maintenant la négociation. Mais tu es obligé. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Mais on a vu même ceux qui sont même la grande puissance là. Même s'ils n'ont pas fait directement, ils ont toujours négocié avec les terroristes. Mmh.
Et vous parlez de quoi ? La France, alors justement, parce qu'on parle du CAF, on a, il y a quelques jours, l'armée française a mené une opération de sauvetage, hein, qui a causé la mort de deux militaires pour sauver deux otages qui avaient été enlevés dans l'extrême nord du Bénin. Mais depuis quelques mois, hein, selon le fils de Sophie Pétronin, Sébastien Château-Pétronin, il dit « la France a coupé, ne veut plus négocier ». Pour libérer les otages, ne veut plus payer. Est-ce que vous comprenez cette position ?
Mais tu ne peux pas apprendre, c'est-à-dire commencer quelque chose, c'est-à-dire mettre quelqu'un dans le beurre et puis d'un coup tu vas le couper. Hein. C'est impossible. Parce que si, c'est-à-dire la négociation était aboutie, on n'allait jamais savoir que ce soit les guides là qui a été tué ou bien les deux commandos, je ne sais pas. Parce que normalement, les vrais commandos là, ils s'en vont et puis ils s'en sortent. Hein. Donc, qui ont été tués. Ouais, du coup, pour nous, le côté faible, moi je parle de nous, au niveau de l'Afrique, non. Parce que nous, on est obligés. Parce que les terroristes, là, ils sont déjà, c'est-à-dire, en avance avec plus que nos armées. Donc, on est obligés de négocier avec eux.
Mais vous dites, finalement, si je comprends bien, Camara, vous dites aussi que les terroristes sont aussi parmi la population. C'est ça aussi, peut-être.
Effectivement. Effectivement.
Merci.
Si moi, je m'en vais au bureau d'Africa numéro 1, si vous ne me montrez pas où se trouve la toilette, je vais pisser quelque part qui n'est pas la toilette. Hein.
Ouais, mais bon, de toute façon, c'est Africa Radio maintenant, vous ne trouverez pas.
Oui, je sais. C'est pas facile de le retrouver si quelqu'un ne me l'indique pas.
C'est très clair. Mais merci hein, pour vos analyses imagées, mon cher Camara. Camara qui dit voilà, on est obligé de négocier avec eux. Ils sont sur notre territoire. Ce sont des Africains. Merci, Camara. Il y a Archiduc Théodore de Djamena qui nous dit sur Facebook que le fait de négocier avec les terroristes est une stratégie pour recueillir assez d'informations afin de mieux les combattre. Jules, bonjour. Merci de votre patience.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Jules. Terroriste au Mali, irrédentiste au Cameroun, est-ce que finalement c'est tout à fait la même chose ? Ou il y a aussi Boko Haram dans le nord du Cameroun. Est-ce que vous seriez favorable à une négociation avec Boko Haram ?
Non. Non, je ne serais pas favorable à une négociation avec Boko Haram. Voilà, donc ce sont des terroristes, on ne doit pas négocier avec eux. Disons que, déjà pour la crise au Mali, la France a intervenu d'une manière énergétique et à un certain niveau, la France a fait une barrière, n'a pas permis à l'armée malienne de continuer à faire le boulot. Bon, les conséquences sont là aujourd'hui. Donc les terroristes ont eu le temps de se reconstituer. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport au Mali. Donc personnellement, il ne faut pas négocier avec les terroristes, voilà. Le combat.
Merci Jules qui dit il ne faut pas négocier. Il y a Sansi hein, qui nous dit sur WhatsApp, la France est plutôt complice des djihadistes et il ne comprend pas Sansi, hein, le deux poids deux mesures concernant la question des droits de l'homme, notamment quand ce sont les armées qui parfois tuent des terroristes, on les accuse d'atteinte aux droits humains. Cerceli, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Cerceli, merci de votre patience également. Vous n'êtes pas favorable aux négociations, notamment au Mali, hein, c'est ça ?
Non, pas du tout, je ne suis pas du tout favorable. Je pense
que Cerceli, pour faire avancer le débat, est-ce que finalement, en procédant à cet échange de prisonniers, le gouvernement malien n'a pas renforcé la position de ces groupes djihadistes ?
Bien sûr, parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois, si mes souvenirs sont bons. Après, ils vont prendre d'autres otages, d'autres personnes pour échanger. Après, on n'en finit jamais.
Surtout que un préfet, un journaliste contre 18 djihadistes, est-ce que l'échange est équitable, selon vous ?
Non, pas du tout. En fait, les questions du terrorisme, ça pose beaucoup de questions au Mali déjà. Qui est terroriste au Mali ? Parce qu'avant le premier gouvernement de IBK en 2013, on appelait même MLLA pour les populations maliennes, pour nous, c'est des djihadistes. Mais actuellement, pour l'État, pour certaines catégories de l'État, ils n'appellent pas ça le terrorisme, ils appellent ça groupes armés. Qui est terroriste au Mali déjà ?
Yad Agali est un ancien leader aussi politique, avant d'être un terroriste par exemple.
Voilà, qui est terroriste au Mali déjà ? Parce que pour nous, il y a certains terrorismes, vous m'excusez, dans le gouvernement. Parce que quelqu'un qui a pris les armes en or pour combattre les Mali, pour nous, c'est un terrorisme. Actuellement, ils n'appellent pas ça terrorisme, ils appellent ça les groupes armés.
Donc vous dites à l'inverse, hein, Sercelli, il aurait fallu négocier avec aucun groupe armé, ni même terroriste.
Voilà, déjà, les premiers problèmes, c'est MNLA. MNLA, pour moi, c'est un terrorisme, MNLA, en fait. Il ne faut pas négocier avec
eux. Pourtant, on a négocié avec eux. Le gouvernement malien négocie avec eux.
Mais ils ont même dans le gouvernement, ils ont même ministre du tourisme.
Tout à fait.
Un ancien rebelle.
Qui est originaire de Kidal, oui.
Voilà, c'est cautionner les terrorismes au Mali.
Merci Sercelli. Merci Sercelli de votre intervention. On va peut-être pour finir écouter Tamsir. Tamsir, bonjour.
Oui, je suis là.
Bonjour Tamsir, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vous dites pareil, hein, négocier est une aberration.
Moi je trouve que c'est une aberration de négocier avec... pardon, je salue d'abord toute la radio, salue tous ceux qui écoutent. Moi je trouve que c'est une aberration de négocier avec des personnes qui prennent des armes pour attaquer un État. Dans un État, il y a des lois, ils ont été condamnés, ils ont été mis en prison pour des actes qu'ils ont commis. On n'a pas à les libérer pour ça. On a des services secrets, on a des pelotons d'attaque, on a tout sur place. Pourquoi est-ce qu'on les laisse agir ? Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas ? Pourquoi est-ce qu'on leur...
Alors justement, Tamsir, la question est peut-être celle-ci, puisque à défaut de négocier, le gouvernement malien a-t-il vraiment les moyens de les combattre, de combattre tous ces groupes armés et ces groupes terroristes ?
Mais on a des alliés. On a des alliés. Aujourd'hui, la France, avec l'opération Barkhane, qui se permet d'attaquer des djihadistes et libérer ses otages. On peut le faire. On peut tout simplement faire appel à des alliés pour pouvoir... Il y a des alliés africains. Il y a le Nigeria qui est là, qui a une force de frappe qui est importante. On a des services secrets qui sont importants. Tout ça.
Ouais, vous avez vu Tamsir aussi au Nigeria. Le Nigeria est aussi enlisé dans sa lutte contre Boko Haram.
Absolument, c'est parce qu'on ne fait pas front, c'est parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on ne fait pas front. Il y a chacun qui reste dans son coin de village et qui regarde l'autre attaquer. Tant que ça n'arrive pas chez lui, il regarde l'autre attaquer à distance. Pourquoi on n'agit pas ? C'est vraiment, ça vient de, peut-être que c'est une complicité de l'État, je ne sais pas. Mais libérer 18 personnes pour 2 personnes, c'est vraiment, non seulement c'est disproportionné, et en plus, ça n'est pas, on n'a pas à le faire. Voilà mon point de vue, on n'a vraiment pas à le faire. On ne négocie pas avec une souris qui bouffe tous nos vêtements. On la tue et on la met hors de nos territoires. C'est comme ça qu'on fonctionne. Soit on les arrête parce que tuer, c'est vraiment trop dit. On fait tout pour les mettre là-dessus, pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. C'est vraiment une aberration.
La justice plutôt que la négociation, nous dit Tamsir. Merci de votre appel, Tamsir. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'Africa Radio. Il y a Touré qui dit « Je suis contre le fait de faire des échanges de prisonniers, mais je suis pour ». Les négociations, Brice s'interrogeait également au standard question, pourquoi parle-t-on de 18 terroristes spécifiquement ? Merci à tous de votre participation, hein, vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, en laissant vos commentaires en dessous le sujet du jour. Vous pouvez également continuer le débat sur le répondeur d'Africa Radio, laissez-nous un message 33 1 55 07 58 05, nous le diffuserons demain. On se retrouve justement demain mardi pour parler, je vous propose de parler de la laïcité dans les écoles au Sénégal. Il y a eu un petit débat là ces derniers jours. Votre avis nous intéresse. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches en écoutant Africa Radio. À demain.